Les podcasts du Collège de France.
Aujourd'hui, on va aborder un point très important. On va commencer le traitement des circuits quantiques actifs. Donc, jusqu'à présent, on a parlé de systèmes passifs, éventuellement non linéaires, mais c'était des systèmes dans lesquels il n'y avait pas de source d'énergie qui pouvait modifier les signaux. Aujourd'hui, on va donc commencer à bâtir les outils qui vont nous permettre de comprendre les amplificateurs qui permettent de traiter les signaux quantiques. Donc, c'est ce que j'ai réservé pour la dernière leçon. Donc, ce que j'appelle signaux quantiques, ce sont des signaux dont l'énergie est de l'ordre d'un photon. Donc, éventuellement une superposition de 0 et de 1 photon. Alors, le plan de la leçon d'aujourd'hui, je vais commencer par, rappeler ce qu'on a fait dans les dernières leçons pour bien fixer la base. Et puis, les outils qui vont nous permettre d'aborder ces systèmes actifs comportent l'examen des fluctuations de différents circuits. On va se concentrer sur l'oscillateur harmonique. J'en profiterai aussi pour vous parler pour comparer deux approches. Donc, on a une approche par la matrice de diffusion. C'est l'approche principale que j'utilise dans ces leçons. Mais on peut aussi voir les problèmes sous l'angle hamiltonien en utilisant l'approche de Caldera et Leggett. Et j'aborderai la description des propriétés de la matrice de diffusion du circuit, et ce qui permettra d'introduire les circuits actifs. Alors, donc, où en sommes-nous ? Donc, ce qui est très important, j'ai insisté la dernière fois sur ce point, et je m'excuse pour ceux qui ont vraiment été très attentifs la dernière fois, mais il y a vraiment deux quantifications, deux étapes de quantification dans le traitement des circuits. Une première étape est une étape finalement classique. Elle s'appliquerait tout aussi bien à des ondes classiques. Je vous rappelle très brièvement de quoi il s'agit. Donc, tout signal qui se propage le long d'une ligne de transmission peut être décomposé en deux signaux qui vont vers la gauche ou vers la droite. Le flux d'énergie s'exprime comme une différence du carré des amplitudes de ces deux signaux. Les amplitudes ici d'ondes ont la dimension de la racine carrée d'une puissance, c'est une unité commode. Et on décompose ces signaux, ces amplitudes d'ondes, dans une base de fonctions orthogonales. C'est-à-dire qu'on prend l'espace composé en fait d'un axe représentant le temps et un axe représentant la fréquence, et on pave cet espace par des fonctions, une base de fonctions. Et là, ici, j'ai représenté un exemple simple, une base dite de cosinus locaux. Les éléments de cette base viennent par paires. Donc, un petit rectangle ici va être défini par un temps moyen et par une fréquence moyenne. Et donc, les indices P et M sont les deux indices discrets, donc ce sont des nombres entiers, qui spécifient la position de ce paquet d'ondes ou de cette ondelette en temps et en fréquence. Et donc, ces ondelettes sont l'ensemble de toutes ces ondelettes, l'ensemble de tous ces petits pavés, forment une base orthogonale pour les signaux. Donc, à chaque signal, finalement, on va pouvoir décomposer chaque signal en une série de composantes et de composantes discrètes. Donc c'est très important, cette question, c'est ce qu'on appelle la première quantification. Le fait que le signal est une énergie finie, implique qu'on peut le décomposer dans une base discrète. Donc une façon de voir ça, c'est que chaque mode du signal, on peut donc décomposer le signal qui voyage le long de la ligne dans ces modes, et chaque mode, on peut les concevoir comme des oscillateurs finalement volants, des oscillateurs qui se déplaceraient le long de la ligne, mais dont les propriétés dynamiques, à part cette capacité à se déplacer, les propriétés dynamiques de chacun de ces modes sont ceux d'un oscillateur. Et donc, en particulier, les deux composantes conjuguées, correspondant aux ondelettes conjuguées ici, sont des variables conjuguées au sens de la mécanique classique. Ici, il n'y a rien, on n'a pas du tout, il n'y a rien de quantique. Il n'y a qu'un aspect ondulatoire et une façon raccourcie de dire que les deux composantes des modes sont des variables conjuguées, c'est de dire que le crochet de poisson, qui est une notion tout à fait classique, est imposé, n'est pas nul pour les composantes correspondant à ces deux ondelettes conjuguées. Et quelque chose que l'on va exploiter beaucoup dans tout ce cours, c'est que les dispositifs que l'on va considérer sont bien qu'actifs, c'est-à-dire ne conservant pas l'énergie, conservent l'information. Donc ça, c'est une notion qu'on va essayer d'expliciter. Donc chaque oscillateur, l'ensemble des oscillateurs, l'ensemble de l'information portée par les oscillateurs se conserve globalement lorsque ces oscillateurs arrivent dans le circuit et repartent du circuit. Ça, c'est une propriété très forte, et c'est une propriété, dans le fond, qui n'a rien à voir avec la mécanique quantique. C'est une propriété qui résulte simplement de l'aspect ondulatoire, du type de degré de liberté, finalement, dont on dispose dans ces systèmes. Alors, juste pour bien fixer les choses, on a ces deux composantes de chaque mode peuvent être représentées dans le plan complexe. C'est la représentation de Fresnel des oscillateurs. Et on peut définir donc une composante en phase du mode, qui est la somme de ces deux vecteurs, ici, de Fresnel, et la composante en quadrature, qui est la différence. Et ces deux composantes sont comme l'impulsion et la position en mécanique classique pour une particule. Donc ce que j'appelle mu ici, c'est l'index du mode, c'est en fait cette paire d'ondelettes. Alors, donc, maintenant on va quantifier le système, on effectue une étape qu'on peut appeler une deuxième quantification. Donc, les théoriciens de la physique des particules détestent ce mot parce qu'ils considèrent qu'il y a une seule quantification, mais dans nos systèmes, de distinguer ces deux étapes est absolument crucial. Et donc, ces amplitudes classiques, ces composantes discrètes du signal, sont quantifiées, deviennent des opérateurs, c'est ça, cette deuxième quantification. Et les crochets de poisson, ici, sont remplacés par des commutateurs. Donc, les grands A, ce sont des variables directement observables. Le problème, c'est que leur commutateur est un peu compliqué, il fait intervenir la fréquence, et il est commode d'introduire des opérateurs normalisés, en quelque sorte, et continus. C'est ces fameux petits a chapeaux, donc les opérateurs d'annihilation du champ. Et si vous voulez, donc, les grands A, c'est quelque chose qui est directement connecté aux expériences, C'est quelque chose qu'on mesure. Il est facile de se représenter ce qui se passe sur les grands tas. On mesure des grands tas ou on impose, on contrôle des grands tas. Mais les calculs, toute la symétrie du système et puis les calculs se font bien sur ces petits tas pris pour des variables pour une fréquence continue. Et effectivement, on a le commutateur des A est particulièrement simple. Et dans l'état thermique de la ligne, l'anticommutateur aussi a cette forme standard très commune. Donc ça, c'est en fait déguisé la statistique de Bose du corps noir. Voilà, donc une application de ces considérations, c'est le théorème de fluctuation-dissipation dans sa forme quantique, donc où on calcule par exemple la fonction de corrélation de la tension des signaux se propageant le long de la ligne. Et on calcule très facilement ce qui s'appelle la densité spectrale, donc qui est le coefficient en face de la fonction delta. Ici, deux fréquences différentes ne sont pas corrélées, elles sont corrélées si oméga 1 est égal à oméga 2. Et cette fonction de corrélation est donnée pour les signaux se propageant le long de la ligne par cette formule qui a un aspect à la fois qui fait intervenir ici l'impédance de propagation de la ligne, donc l'aspect dissipatif de la ligne. Alors ce lien entre fluctuation et dissipation se voit nettement plus clairement quand on prend une ligne semi-infinie, c'est-à-dire qu'on interrompt, on coupe la ligne en deux, donc il y a deux bornes. Donc finalement, vu de ces deux bornes, la ligne se comporte comme une résistance. Si elle est infinie, les signaux qui sont émis le long de la ligne ne reviendront jamais, ils sont perdus pour toujours. Et bien qu'il n'y ait pas du tout d'effet Joule dans la ligne, elle se comporte du point de vue de ces deux points ici, de ces deux bornes, exactement comme une résistance. Et lorsqu'on fait la somme donc, de l'onde qui se propage vers la gauche et de l'onde qui se propage vers la droite, on a la tension aux bornes ici de cette résistance et on a donc la densité spectrale des fluctuations de tension observées en ce point. Et on obtient ici le théorème fluctuation-dissipation quantique proprement dit pour cette résistance. Alors, ce qui est vraiment intéressant, et ça va être quelque chose qu'on va beaucoup exploiter dans ce cours, c'est que ce que rajoute la mécanique quantique dans ce problème, c'est le fait que la densité spectrale des fluctuations de la tension, quantiquement, est asymétrique. La valeur de la densité spectrale n'est pas la même pour les fréquences positives et pour les fréquences négatives. Et classiquement, il n'y a évidemment aucune distinction entre les fréquences positives et négatives. Lorsque vous achetez un analyseur de spectre, il n'a pas de fréquence du tout négative. Il y a un bouton pour les fréquences, c'est tout. Les fréquences n'ont pas de signe. Mais nous allons voir qu'il serait possible, et en fait, dans le laboratoire, on arrive à réaliser ce genre d'expérience, il est tout à fait possible de mesurer, d'avoir un analyseur de spectre quantique. Alors, donc, la valeur classique des fluctuations pour une résistance, en fonction de la fréquence, est parfaitement plate. Quantiquement, du côté positif, on observe cette pente ici qui monte jusqu'à l'infini. Donc et ça traduit le fait que plus vous augmentez la fréquence, plus le mouvement de point zéro, plus l'énergie de fluctuation de point zéro est grand, et plus vous avez de fluctuations quantiques de tension. Alors, cette asymétrie peut se comprendre de la façon suivante. En fait, les fréquences positives ici correspondent à l'émission de signaux à l'intérieur de la ligne, dans la ligne, et ça c'est toujours permis. On peut, c'est finalement cette branche ici correspond à l'émission spontanée d'un système que vous placerez ici, qui sera en contact avec cette résistance. Donc il est toujours possible de dissiper dans la ligne. Par contre, le côté négatif correspond à l'absorption d'énergie de la ligne, où on essaierait de prendre de l'énergie de la ligne, et à basse température, ou si vous voulez, grande fréquence, du côté de la courbe ici, c'est interdit. On ne peut pas extraire, à température nulle, on ne peut pas extraire d'énergie de la ligne. On peut se convaincre que cette forme généralise bien la forme classique. Lorsqu'on prend la limite où h bar oméga sur kt tend vers 0, donc lorsqu'on est au centre de cette figure ici, on ne peut pas distinguer entre la courbe orange, qui est asymétrique, et cette courbe marron, qui est plate. Et la courbe, la valeur, des fluctuations, c'est donné par le bruit de Johnson ordinaire. Pour les fluctuations en tension, observées ici entre ces deux points, si par contre on s'intéresse à la puissance finalement qui voyage le long de la ligne dans une direction donnée, on trouvera bien que la puissance est donnée par kt fois la bande passante, ce qu'on retrouve très bien en disant que chaque mode du signal a une énergie kbt. Donc cette énergie kbt est répartie sur la composante positive et sur la composante négative. Il y a 1,5 kbt par composante. Alors la question, c'est ça, c'est est-ce qu'on peut finalement, comment on bâtirait un analyseur de spectre quantique? Alors, je vous rappelle comment fonctionne un analyseur de spectre classique. Il y a en fait deux types de modèles. Il y a deux façons de mesurer le spectre des fluctuations d'un composant électrique. Donc, le signal qui sort de ce composant, dans cette première méthode, on le fait passer dans un filtre étroit, un filtre passe-bande autour de la fréquence nue. Et puis, on a ce détecteur quadratique qui mesure la puissance de ce signal dans cette bande, et on intègre pendant un certain temps tôt. Et le spectre, donc ça c'est là, j'ai réservé ce symbole S, disons rond, pour le spectre défini par les ingénieurs, donc pour une fréquence nue toujours positive et exprimée en Hertz. C'est la limite, finalement, du contenu de la somme de ces deux modes, à fréquence positive et à fréquence négative. On distingue, vu qu'on fait la somme des fréquences positives et des fréquences négatives, on ne distingue pas le signe de la fréquence. Alors, il y a une autre façon de procéder, plus moderne. Donc, on prend le signal, on l'échantillonne à deux temps. On fait le produit de la valeur des signaux à ces deux temps et on fait la moyenne. Et cette fonction de corrélation, on prend sa transformée de Fourier par rapport à la différence des deux temps. Et ceci définit la fonction de corrélation des physiciens. Excusez-moi, j'ai oublié l'indice. Je devrais avoir un indice AA ici. Ces fonctions de corrélation, là c'est la fonction de corrélation de ce signal ici. Et donc là, vous voyez, dans cette définition, oméga peut être positif ou négatif a priori. Mais pour un signal classique, on a toujours une symétrie puisque classiquement, cette valeur du produit ici de corrélation ne dépend pas du signe de la différence entre les temps. Classiquement, on a ce théorème de Wiener-Kinchin qui relie ces deux méthodes. En fait, la densité spectrale des ingénieurs est deux fois la valeur de la densité spectrale des physiciens pris à donc les physiciens aiment utiliser les fréquences angulaires, donc il faut bien prendre soin d'être cohérent au niveau des fréquences. Alors quantiquement, en fait, ces deux méthodes sont en fait il y a des subtilités qui sont dues au fait que ça devrait être T2 ici est pris à l'instant T2, c'est les deux valeurs des signaux ici ne commutent pas. Les opérateurs correspondant au signal pris à des instants différents ne commutent pas. Alors, comment mesurer cette densité spectrale asymétrique? En fait, il faut que l'analyseur de spectre soit un système quantique. Par exemple, le plus simple, c'est de prendre un spin. On peut prendre un spin 1,5 dans un champ magnétique, par exemple, et on va mettre à la... on va faire en sorte que notre résistance ou notre ligne de transmission soit couplée au spin par un petit solénoïde, c'est-à-dire que les fluctuations de tension ou de courant vont créer un petit champ magnétique qui va perturber le spin. Donc, en fait, le spin est principalement, disons, quantifié le long de l'axe du champ magnétique, ici, dans cet Hamiltonien. Et ce petit champ extérieur, dirigé suivant X, perpendiculaire à Z, va représenter une petite perturbation. Donc, cette petite perturbation va faire changer d'état le spin. Et la densité spectrale qui a des fréquences avec distinction des fréquences positives ou négatives intervient dans la formule de la règle d'or de Fermi ici qui donne le taux taux de changement d'état du spin. Donc on n'aura pas le même taux suivant que on part de l'état fondamental et qu'on mesure l'excitation qu'on part de l'état excité et qu'on mesure la désexcitation. Donc ces deux formules ici donneront des résultats différents. Donc voilà une façon de mesurer finalement cette densité spectrale quantique avec asymétrique. Elle est tout à fait physique, mais évidemment, il faut disposer d'un système quantique contrôlé pour faire cette mesure. Un système donc qu'on peut préparer à volonté qu'on peut aussi observer. On peut observer ce changement d'état quantique. Bon, donc ça, c'était un peu la revue de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Aujourd'hui, on voudrait attaquer le but ultime de ce cours, c'est l'examen de ce qui se passe pour les circuits actifs. Et je voudrais, le but de ce cours aussi, c'est de bien faire la distinction entre les circuits qui peuvent être dispersifs ou dissipatifs, passifs ou actifs, donc passifs sans source d'énergie, actifs avec source d'énergie, et les circuits linéaires, donc les circuits qui ne comportent que des selfs et des condensateurs, et les circuits non linéaires, les circuits dans lesquels il y a par exemple des jonctions Josephson. Alors, on va commencer par s'entraîner en examinant un oscillateur LC. Oui. Oui.
Soit dans l'espace
Des temps, oui.
Et pour la version quantique, tu nous as donné un spectro quantique qui marchait finalement dans l'espace des fréquences. Est-ce qu'il y a une version temporelle?
Je crois pas. En fait, je crois que ce spectre... En fait, lui, il fonctionne à la fois... Justement, un analyseur de spectre... Alors là, ça, c'est très, très important... Je te remercie pour ta question parce que un analyseur de spectre fonctionne à la fois en temps et en fréquence. Un analyseur de spectre mesure vraiment ces composantes de ces ondelettes dont j'ai parlé. Regarde par exemple cette méthode. Elle a à la fois un caractère finalement fréquentiel et temporel. On commence par faire passer le signal dans un filtre. Ce filtre définit une fréquence, mais il a quand même une largeur spectrale. Donc il faudra bien prendre le soin d'attendre quand même un certain temps, parce que cette bande passante, si elle est étroite, elle ne s'exprimera que si tu attends suffisamment longtemps. Et donc, tu vois, il faut intégrer le signal pendant un certain temps. Même dans cette méthode, il y a un compté à la fois fréquentiel et temporel. De même, ici, il faudra faire attention à ta durée d'échantillonnage. Et si tu veux, il y a des aspects aussi. Les deux techniques sont différentes, mais un spectre, c'est une composante d'ondelettes. C'est un ensemble d'intensités de composantes qui elles ont ces composantes tu peux les choisir tu peux choisir tes rectangles tes briques dans l'espace temps fréquence extrêmement étroite en fréquence et très longue en temps, mais tu peux très bien choisir de privilégier plutôt l'aspect temporel, de prendre des briques très plutôt étroites en temps et larges en fréquence. Ces méthodes ici sont adaptées, disons, cette méthode est plus adaptée finalement aux signaux qui correspondent aux briques larges en fréquence. Celle-là est plus adaptée aux signaux qui sont bien représentés par des briques étroites en fréquence. Et donc cet analyseur de spectre ici, bon, ben, il a un aspect à la fois temporel et fréquentiel. La fréquence va être déterminée par le champ et puis finalement par la largeur de ray de ce spin. Il ne faut pas que ce spin soit décohéré, soit relaxé par une source extérieure. S'il est très pur, ça va nous permettre d'être très précis en fréquence. L'aspect finalement temporel s'exprime par le fait qu'il faut que tu prépares, il y a une séquence qui s'effectue dans le temps, il faut que tu prépares le spin à un certain moment. Donc, tu le mets dans un état bien défini, tu attends, tu regardes combien de temps il va prendre pour relaxer. Et ce temps de relaxation, va te définir une largeur élémentaire en fréquence. Donc, en changeant le couplage, par exemple, ici, tu peux faire en sorte que l'aspect temporel soit plus ou moins précis. Mais je vois un peu ce que tu veux dire là, Bertrand. Ce qui serait intéressant, ça serait de capturer instantanément la valeur de l'opérateur. Je suis sûr que en réfléchissant à ce dispositif, on pourrait effectuer copier la deuxième méthode. Bon, donc l'oscillateur harmonique amorti, donc on peut le représenter de deux façons. Hein. On peut soit considérer que cet oscillateur harmonique est pompé par une source de tension, comme ça, en série avec la résistance, ou par une source de courant en parallèle avec la résistance. Mais en tout cas, ces deux représentations sont équivalentes à une troisième représentation où on a un oscillateur harmonique parfaitement pur, sans dissipation, couplé à une ligne de transmission. L'avantage ici de cette représentation, c'est que dissipation et puis pompage sont traités en quelque sorte sur le même plan. La dissipation, c'est le fait que les signaux peuvent partir de ce circuit, être envoyés le long de la ligne et ne plus jamais revenir. Ça, c'est l'aspect dissipatif. Et l'aspect, disons, fluctuation ou pompage sont vraiment sur le même plan. Cet aspect est en fait porté par les signaux qui entrent le long de la ligne. L'idée absolument cruciale, c'est que quand on termine une ligne de transmission sur un circuit, les ondes voyageant dans les deux sens le long de la ligne ne sont plus indépendantes. Pour la ligne infinie au debout, donc les signaux se propageant à droite et à gauche sont complètement indépendants. Dès qu'on coupe la ligne et qu'on la termine sur un circuit, ces ondes sont corrélées. En fait, l'onde sortante ici est déterminée entièrement par l'onde entrante. Ce qui se passe ici est complètement élastique. Donc on a vraiment deux points de vue. C'est très important de bien comprendre que le point de vue change complètement. Donc dans le point de vue habituel, on a un oscillateur, une onde qui finalement porte une onde stationnaire. Cette onde stationnaire s'amortit par la dissipation. Et donc le concept principal, c'est un concept d'impédance. On injecte un courant ici, on voit la réponse en tension. Dans cet autre point de vue, le même circuit est vu de façon différente. C'est vu comme un centre. Le circuit est vu comme un centre diffuseur où finalement les ondes entrantes sont réfléchies en ondes sortantes. Elles sont finalement déphasées. C'est la matrice de diffusion qui joue le rôle de l'impédance. L'avantage de ce point de vue-là, c'est que, la transformation se passe entre objets qui ont la même dimension. C'est très pratique. Donc, la matrice de transformation, la matrice de diffusion est sans dimension. Cette symétrie entre l'entrée et la sortie est très pratique. Et en micro-ondes, c'est toujours cette approche qui est, c'est toujours ce point de vue qui est adopté parce qu'il est impossible, en fait, aux fréquences micro-ondes d'imposer strictement soit un courant, soit une tension. On impose finalement des ondes progressives, mais pas d'ondes stationnaires. Donc, l'équivalence entre ces deux circuits est détaillée ici. Donc, on a la tension ici aux bornes du circuit et le courant passant de la source et de la résistance dans l'inductance et la capacité. Et à partir de ces circuits, on peut écrire un certain nombre de relations entre le but ici, c'est de finir par calculer la relation entre la tension des ondes sortantes et la tension des ondes entrantes. Donc je passe sur ces calculs, ils sont tout à fait standards. Voilà un intermédiaire assez intéressant. Cet intermédiaire nous donne l'équation auquel obéit le flux dans l'inductance ici, en fonction, avec comme terme de source, la tension entrante dans la ligne. Donc, en résolvant cette équation et en injectant la dérivée du flux dans cette relation, on peut calculer la tension de l'onde sortante en fonction de l'onde entrante. J'introduis là les notations qui vont nous servir par la suite. Donc, ce que j'appelle oméga 0, c'est la fréquence de résonance du circuit. Le grand gamma, ici, ça sera le taux de relaxation du circuit pour l'amplitude. Et le facteur de qualité, c'est le rapport entre, finalement, cette fréquence et ce taux de relaxation. Alors, ça, c'est jusqu'à présent, ces calculs étaient complètement classiques. Il s'agit d'équations linéaires, elles se quantifient sans aucun problème. Et finalement, il s'agit simplement, dans ces équations, de remplacer les variables par des opérateurs. Et on arrive à, finalement, cette relation très précieuse, qui est la relation entre les opérateurs correspondant aux tensions de sortie données en fonction des tensions entrantes. Et le résultat du calcul est ce terme ici, ce facteur, qui est un nombre complexe. Vous voyez, le numérateur et le dénominateur sont conjugués, et donc c'est un nombre qui est un nombre complexe de module 1, ce qui est tout à fait normal, puisque le circuit LC est complètement élastique, il n'y a aucune dissipation à l'intérieur, donc ce qu'il ne peut faire, tout simplement tourner en phase les signaux. Il ne peut pas changer leur amplitude, puisque ça correspondrait à un changement d'énergie. Alors là, il est commode de considérer des circuits avec un grand facteur de surtension, donc un petit kappa ici, ce qui nous permet d'isoler les deux pôles de la formule précédente. C'est dans cette formule ici, dans finalement ce coefficient de réflexion, il y a deux pôles. Et lorsqu'on fait cette hypothèse ici, on peut travailler avec un seul pôle à la fois, c'est beaucoup plus commode. Et donc là, j'ai représenté ce qui se passe. Donc ce rapport ici, c'est le coefficient de réflexion du circuit. C'est un nombre complexe de module 1, donc qui voyage sur ce cercle ici. Et cet axe porte la différence entre la fréquence à laquelle on travaille et la fréquence de résonance, normalisée par le taux de relaxation. Et cette construction ici permet, pour chaque fréquence, d'obtenir le facteur de réflexion. Vous voyez que lorsqu'on part des fréquences très petites par rapport à la fréquence de résonance, on se trouve par ici. Lorsqu'on augmente la fréquence pour arriver à résonance, on se promène sur cet arc de cercle. Là, à la fréquence de résonance, le coefficient de réflexion vaut exactement 1. Le circuit se comporte comme un circuit ouvert et on repart pour les fréquences plus élevées, on repart vers moins 1. Moins 1, donc c'est la valeur moins 1 correspond plutôt au circuit se comportant comme un court-circuit. Une façon de voir les choses, c'est que aux fréquences petites ou grandes, soit la self, soit la capacité vous donne un court-circuit. Alors, on peut faire un exercice extrêmement intéressant. On peut envoyer un signal à résonance avec une amplitude qui augmente progressivement. Qui est calculée en fait pour pomper optimalement le circuit sans réflexion. Donc voilà le signal entrant et le signal sortant, donc pour ce pompage optimum est zéro. Lorsqu'on coupe ce pompage, à ce moment-là, le signal sortant n'est plus nul. Et finalement prend une forme qui est la forme miroir du signal entrant. Lorsqu'on fait la somme entre le signal entrant et le signal sortant, on observe on a la tension aux bornes du circuit LC qui est finalement si on prenait la transformée de Fourier de cette somme, on aurait la lorentzienne, la réponse du circuit, mais vue sous forme d'une impédance. Là, on voit plutôt le circuit sous forme, dit finalement, d'un déphaseur dont la phase dépend de la fréquence, d'une telle sorte que ce circuit, finalement, il copie le signal entrant en l'inversant. Donc, il faut imaginer que cette onde rouge ici arrivant sur le circuit, et elle subit une réflexion miroir qui la transforme en onde verte. C'est ça que finalement fait le circuit LC pour ce pompage ici optimum. Donc, connaissant ce coefficient de réflexion, on peut calculer absolument toutes les quantités qui nous intéressent, puisque on peut toujours, connaissant le signal entrant, on peut connaître le signal sortant, on peut faire la somme entre le signal entrant et le signal sortant et calculer toutes les fonctions de corrélation du circuit. Par exemple, fonction de corrélation du flux, qui va être donné par cette formule. Donc on peut après calculer les fluctuations, la fluctuation moyenne à un instant donné en sommant sur toutes les fréquences. Et lorsqu'on regarde cette intégrale, on voit, on est rassuré, elle converge. Par contre, si on veut calculer les fluctuations de la charge sur le condensateur du circuit LC, là on a une grosse surprise. En fait, quand on intègre sur toutes les fréquences, finalement, le mouvement de point zéro conduit à une magnifique divergence. Et donc, pour ce circuit LC, eh bien, les fluctuations quantiques de charge sur la capacité ne sont pas bornées. Donc, il y a un problème. Mais en fait, on peut comprendre l'origine du problème de la façon suivante. C'est que ce modèle est un peu trop schématique, haute fréquence. Alors, je vais parler de cette question dans un instant, mais revenons aux fluctuations du flux. Donc, le flux dans la self, lui, est parfaitement, disons, se conduit de façon non pathologique. Donc, ça, c'est un calcul qu'on fait par Hermann Grabert et ses collaborateurs. On peut calculer ces fluctuations quantiques de flux pour toutes les valeurs de la température et toutes les valeurs en fait de l'amortissement. Ce facteur kappa, hein, c'est, je vous rappelle, c'est le rapport entre gamma et la fréquence de résonance de l'oscillateur. Donc, à température nulle, pour une dissipation faible, on trouve que le résultat, disons, normal d'un oscillateur harmonique non amorti, donc qui s'obtient, cette valeur ici, en fait, s'obtient très simplement par le théorème d'équipartition de l'énergie. C'est un petit peu un raccourci, mais c'est un raccourci très commun. Donc, pour calculer les fluctuations du flux, on calcule l'énergie de ces fluctuations de point zéro dans l'inductance et on dit que c'est la moitié de l'énergie de point zéro. Et on obtient comme ça le bon résultat. C'est très pratique. Maintenant, quand on voit l'influence du shunt, lorsque la résistance, disons, diminue, lorsque le circuit est de plus en plus shunté, ce qui correspond à une augmentation du kappa, on voit que les fluctuations diminuent. Les fluctuations diminuent et pour une dissipation, disons, tendant vers l'infini, on retrouve cette ligne droite, la ligne classique, où finalement il n'y a plus de fluctuations de point zéro. Donc l'effet de la dissipation, le fait d'avoir shunté cet oscillateur LC par une résistance, supprime les fluctuations de point zéro du flux. Et bon, si vous êtes intéressé, en fait, on peut calculer pour toute fréquence et toute température ces courbes. Maintenant, passons aux fluctuations de charge qui divergent. Alors, comment le paradoxe se résout ? Bien, en fait, l'idée qu'on peut coupler ce circuit LC à une résistance parfaite à toute fréquence est impossible. En fait, on ne peut pas, jusqu'à l'infini, imposer un circuit avec une résistance constante. Quelque part, il y a, disons, la dissipation ne va plus fonctionner à haute fréquence. Et on peut modéliser ce phénomène par cette inductance parasite, si vous voulez. Il va y avoir toujours un petit fil qui réunit la résistance à votre circuit LC. Et ce petit fil a toujours une inductance. Donc, en mettant cette inductance dans le système, là, les calculs, l'intégrale converge parfaitement et on voit que les fluctuations de charge, donc, qui sont elles aussi obtenues par ce théorème d'équipartition très simple, ont tendance à diverger lorsque la dissipation augmente. Évidemment, donc plus la dissipation est grande, plus ces fluctuations sont grandes. Si vous voulez, ce petit LC régularise finalement le calcul. Donc finalement, les fluctuations se conservent en quelque sorte. Lorsque vous introduisez de la dissipation dans ce circuit LC, vous réduisez les fluctuations dans la variable qui est en quelque sorte observée par la résistance, ce flux ici est proportionnel au courant qui passe dans cette self ici, mais ce courant est observé par la résistance, donc ces fluctuations vont être diminuées. Par contre, les fluctuations dans la variable conjuguée, la charge sur la capacité, elles augmentent. Et en fait, on pourrait voir qu'elles augmentent d'ailleurs dans une proportion légèrement supérieure à la proportion dans laquelle les fluctuations de flux sont diminuées, ce qui fait qu'on perd toujours. Il y a toujours, de toute façon, plus de fluctuations globalement à la fin lorsqu'on introduit de la dissipation. On a finalement plus de degrés, on a amené plus de degrés de liberté dans le système, donc il fluctue plus. Et donc là encore, on peut calculer exactement les fluctuations. Alors je voudrais contraster très brièvement cette approche de la diffusion par l'approche plus hamiltonienne, plus conventionnelle, introduite par Caldera et Leggett. Donc la dissipation, on peut la voir aussi sous une autre forme, plutôt que d'avoir une ligne de transmission infinie, semi-infinie, on peut remplacer une impédance Z d'oméga par un ensemble d'oscillateurs harmoniques de fréquences bien choisies et d'impédances bien choisies. Donc l'impédance à résonance du circuit, c'est le rapport L sur C, racine. Et donc, si on étage de façon uniforme la fréquence de ces circuits, et si on prend leur impédance de telle façon à épouser la courbe donnée par la partie réelle de l'impédance, eh bien on va simuler, dans la limite où le nombre de simulateurs tend vers l'infini, on va simuler parfaitement cette impédance. Ça, c'est la représentation série de l'impédance. Il y a une représentation parallèle pour l'admittance. Donc, il faut bien faire attention, une résistance, une impédance est un composant qui arrive avec, disons, deux bornes ouvertes. On va refermer ces deux bornes par un circuit extérieur. L'admittance, quand vous achetez une admittance, vous achetez quelque chose d'assez différent, c'est une boîte qui est shuntée, et vous coupez ce shunt et vous introduisez votre circuit dedans. Donc la représentation est différente. Ici, vous avez une série d'oscillateurs en série. Là, vous avez une série d'oscillateurs en parallèle. Mais la loi de correspondance est somme toute la même. Ici, il va falloir que vous épousiez la forme de la partie réelle de l'admittance. Donc ces représentations conduisent en fait à la version généralisée du théorème fluctuation-dissipation, et qui a cette forme intéressante. Donc, d'une façon générale, lorsque vous mesurez la densité spectrale des fluctuations en tension aux bornes d'une impédance, ou les fluctuations de courant circulant dans le shunt de l'admittance, eh bien, vous avez toujours cette structure. Vous avez dans cette fonction de corrélation, cette densité spectrale contient une partie quantique, c'est en fait la formule, c'est le remplissage du type corps noir des oscillateurs, c'est un facteur de Bose ici. Et il y a une deuxième partie, c'est l'aspect finalement dissipation. En fait, cette deuxième partie s'obtient toujours en prenant la fonction de réponse calculée classiquement pour le système. Donc, c'est en quelque sorte très pratique. On fait de la mécanique quantique avec un coût assez minimal. Une grande partie, finalement, du travail, de l'information dans cette fonction peut être obtenue tout à fait classiquement. Avec un simple appareillage classique, je peux mesurer cette fonction de réponse. Et finalement, pour obtenir la fonction de la densité spectrale quantique, je multiplie par ce facteur en quelque sorte universel qui lui introduit cette asymétrie entre la partie les fréquences positives et les fréquences négatives. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement général. Nous allons voir que cette structure, le mélange entre cette fonction classique finalement qu'on peut obtenir à très bas coût Et puis un facteur quantique, mais qui est finalement universel et toujours un peu le même, c'est quelque chose qui va se prolonger même pour les circuits actifs, qui simplifie considérablement leur analyse. Donc, on peut utiliser ces symétries pour finalement résoudre le problème de l'amortissement d'un circuit LC par une intermittence tout à fait générale, et on aboutit à ces formules-ci qui sont encore de ces intégrales sur les fréquences, mais qui maintenant comportent ces termes tout à fait généraux. Voilà, donc là maintenant on va aborder la chose vraiment nouvelle de ce cours. Donc on va voir à quoi ressemble la matrice de diffusion pour un circuit à plusieurs ports. Pour l'instant, on a été très simple. Il s'agissait d'un circuit. On arrivait sur ce circuit par une ligne de transmission unique et on en repartait par la même ligne. Là, maintenant, on va généraliser une situation où on peut arriver par plusieurs ports à la fois sur le circuit. Par exemple, ici, on peut avoir un transformateur et chaque self du transformateur peut être un circuit résonant. Et donc, ce système ici, ce circuit, est un peu, on peut le voir comme une lame séparatrice. Finalement, une onde arrivant par la droite ici va se séparer en deux. Il va y avoir une partie qui va être réfléchie et une partie qui va être transmise. Et d'une manière générale, on pourrait avoir une boîte dans laquelle il y a des selfs et des capacités et qui sont câblés de façon très compliquée, et on arrive par plusieurs ports et on repart par plusieurs ports. En fait, il y a un théorème extrêmement intéressant, c'est que tout circuit dissipatif, tout circuit qui comporte des résistances, mais des résistances qui pourraient dépendre de la fréquence, peut toujours, à condition évidemment, d'augmenter éventuellement la complexité du circuit, peut toujours se représenter de cette façon. C'est assez incroyable, mais ces lignes de transmission peuvent en fait modéliser n'importe quel circuit dissipatif. Plus il est compliqué, évidemment, plus il y aura de ports différents. Et alors, donc, d'une manière générale, on introduit la matrice de diffusion du circuit. Et pour un circuit passif linéaire, il y a une symétrie très importante, c'est que la matrice de diffusion relie les amplitudes entrantes et les amplitudes sortantes par des coefficients qui, finalement, séparent complètement les fréquences. C'est-à-dire chaque fréquence est traité absolument séparément des autres. Donc cette matrice, elle existe pour toutes les fréquences, hein, c'est la valeur de ces coefficients peut être différente pour toutes les fréquences, mais les fréquences ne communiquent pas entre elles. En particulier, par exemple, les fréquences positives et les fréquences négatives ne communiquent pas entre elles. Alors la causalité, le fait que le circuit qui diffuse ces ondes est un circuit causal, un circuit réel, se traduit de façon un peu subtile. C'est les pôles de ces fonctions de la fréquence ici sont dans le demi-plan inférieur du plan complexe. Mais la grande symétrie à laquelle obéit cette matrice, c'est l'unitarité. Et l'unitarité, alors j'insiste là sur ce point, c'est extrêmement important. L'unitarité est souvent présentée comme comme résultant de la conservation de l'énergie par le circuit. Ça, ce n'est pas correct. En fait, l'unitarité résulte de la combinaison de deux choses. Il y a la conservation de l'énergie, oui. C'est vrai que l'énergie entrante dans le circuit doit se retrouver, enfin, entrant par les ports du circuit, doit se retrouver par les ports de sortie. Ça, c'est un aspect. C'est-à-dire, disons, la matrice doit être orthogonale en ce qui concerne les composantes, les quadratures des ondes. Mais cette matrice conserve autre chose, elle conserve l'information. Si vous voulez, cette matrice conserve à la fois, en termes mathématiques, cette matrice conserve à la fois un produit scalaire et un produit vectoriel. Et cette, la combinaison de ces deux lois de conservation nous donne l'unitarité de cette matrice S. Et nous allons voir que pour les circuits actifs, en fait, il va falloir abandonner la conservation de l'énergie. Quand vous avez un amplificateur, l'énergie qui sort est plus grande que l'énergie qui rentre. Par contre, cette, disons, la conservation de l'information va subsister, ce qui va donner une généralisation de cette propriété d'unitarité. Alors, regardons un peu les conséquences de l'unitarité lorsqu'on a un circuit avec deux ports seulement. Alors, la matrice unitaire la plus générale, avec deux ports, à cette forme, il y a un coefficient de réflexion R qui finalement décide finalement du partage entre les ondes. Ce coefficient R fixe finalement le partage entre l'onde partant vers la gauche et l'onde partant vers la droite. C'est la partition finalement, ça spécifie la partition des ondes. Mais il y a des facteurs de phase ici supplémentaires qui obéissent à cette contrainte. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quel facteur de phase. Il y a cette contrainte ici. Et la matrice la plus symétrique que vous puissiez réaliser, finalement une lame séparatrice la plus symétrique, va être donnée par ces coefficients ici. Donc, par exemple, ce qui est interdit, c'est de prendre une matrice hermitienne. Par exemple, cette matrice hermitienne ne satisfait pas cette relation. Vous n'avez pas droit à cette matrice-là. Par contre, celle-ci, qui est en fait celle de la lame la lame séparatrice ordinaire en optique, c'est cette forme qui est physiquement réalisée. Alors, pour vous illustrer les contraintes introduites par l'unitarité, il est intéressant de voir ce qui se passe pour un circuit à trois ports. Là, pour l'instant, on avait fait la lame séparatrice, mais ici, maintenant, on imagine une jonction entre trois lignes. On essaye, par exemple, de prendre une onde et de la diviser en deux parfaitement. On va voir que c'est impossible. On ne peut pas le faire. Il y a ce théorème extrêmement intéressant qui dit qu'il est impossible pour un circuit à trois ports d'être à la fois ce qui s'appelle adapté en impédance, réciproque et évidemment non dissipatif. On s'intéresse, donc l'hypothèse de départ, c'est que toutes ces boîtes sont composées d'inductance et de capacité éventuellement non linéaires, mais elles ne sont pas dissipatives. Donc l'adaptation d'impédance du circuit, c'est le fait que les éléments non diagonaux les éléments diagonaux de la matrice de diffusion sont tous zéro. Et la réciprocité, c'est le fait que finalement on voit l'œil qui vous voit, c'est le fait que la matrice est symétrique, elle est égale à sa propre transposée. Alors, donc on ne peut pas tout avoir. Il faut que cette division des ondes, elle doit être imparfaite d'une manière ou d'une autre. Alors, regardons la première façon de résoudre le compromis. Alors, on peut insister sur la non-dissipation et la réciprocité, mais on va abandonner l'adaptation en impédance. Alors, c'est ce qui se passe, par exemple, quand on prend une ligne d'impédance ZC sur 2 et qu'on la couple à deux lignes en parallèle d'impédance ZC. Donc, pour ce port-là, on sera adapté, mais pour ces deux autres ports, ici, il y aura une réflexion qu'on ne peut pas éliminer. On n'est pas parfaitement adapté, mais on est réciproque et non dissipatif. Alors, il y a un système qui, lui, est non dissipatif et adapté, mais on abandonne la réciprocité. C'est le circulateur. Donc, ce qui arrive en 1 va en 2, ce qui arrive en 2 va en 3, ce qui arrive en 3 va en 1. Mais ce circuit n'est pas réciproque. On dit d'ailleurs, il nécessite un matériau un matériau magnétique dans lequel l'invariance par symétrie, par renversement du temps, est, est brisé. Alors il y a une façon de finalement, troisième façon de réaliser un diviseur d'ondes, c'est de prendre un circuit avec quatre ports, un coupleur hybride, et de prendre un des ports et on le cache à l'intérieur du circuit, ce port, et on le termine de façon adaptée. Alors ce circuit, il est adapté en impédance, donc si vous arrivez par n'importe quel bout, vous n'y avez pas de réflexion. Si vous arrivez ici, vous divisez en deux parfaitement le signal, mais ce circuit est dissipatif. En fait, les fluctuations de ce port vont se répercuter dans les signaux de sortie. Alors, en conclusion, là, j'aborde donc l'aspect des circuits actifs. Alors, un exemple plus simple, le plus élémentaire de circuit actif, on ne peut pas faire plus simple, c'est en fait de prendre la self de l'oscillateur LC que j'ai considéré et de faire varier son inductance de façon sinusoïdale au cours du temps. Donc on a un système qui module en temps l'inductance. C'est ce qu'on appelle l'amplificateur paramétrique dégénéré en termes techniques. C'est pas très élégant, mais enfin, c'est comme ça qu'on peut voir ce système. On peut voir ce système aussi comme une balançoire. Lorsqu'on monte et qu'on descend sur la balançoire pour la pomper, finalement, ça correspond aussi à ce système. Là, je passe très brièvement sur les équations. L'exercice qu'on a fait précédemment avec le circuit fixe, ici, on peut le poursuivre avec ce système variable. On a toujours des équations linéaires, mais dans ces équations linéaires, un des coefficients dépend du temps, mais le système reste tout à fait soluble. Et en fait, on peut calculer la matrice de diffusion de ce système. On peut avoir les amplitudes sortantes en fonction des amplitudes entrantes. Et là, on découvre quelque chose, un phénomène extrêmement intéressant. Donc, si on regarde les coefficients maintenant, d'abord, on voit deux choses. Pour ce circuit à un port, on voit qu'avant, on avait un nombre complexe de module 1. Maintenant, on a une matrice parce que ce circuit met en relation les fréquences positives et les fréquences négatives. Donc, une amplitude à fréquence négative peut se retrouver diffusée et devenir une amplitude à fréquence positive par cette matrice. Donc, on n'a plus une matrice unitaire qui serait juste un nombre complexe de module 1. En fait, on a une matrice 2 par 2 dont le déterminant vaut 1. On est maintenant donc dans un autre régime. On a plus cette matrice de diffusion généralisée n'est plus unitaire. Et on va exploiter ces choses par la suite. Alors comment on peut réaliser en pratique ce circuit avec des jonctions Josephson? Si on remplace la self ici par un squid et qu'on fait, on module le flux dans le squid d'une manière sinusoïdale, et cette expérience est actuellement réalisée dans le groupe de Yasunobu Nakamura à NEC, eh bien on peut faire varier cette salle de façon sinusoïdale. Ça, c'est l'inductance effective du squid en fonction de ce courant de biais, en se plaçant à ce point de fonctionnement et en faisant osciller le courant, on module au cours du temps l'inductance. Et pour des petits signaux, eh bien, le circuit va se comporter toujours de manière linéaire. Alors ça, c'est quelque chose qui surprend souvent. Finalement, les jonctions Josephson sont des composants non linéaires. Et donc, effectivement, c'est cette non-linéarité qui nous donne cette propriété de variation de l'inductance en fonction du courant de polarisation. Donc, cette fonction non-linéaire est très précieuse. Mais vis-à-vis des signaux qui arrivent le long de la ligne ici et qui sont petits par rapport au courant critique des jonctions, eh bien, le circuit répond de manière linéaire, mais active. C'est-à-dire qu'on a cette correspondance entre les fréquences positives et négatives. C'est une loi tout à fait générale. Dès qu'on va avoir un système non linéaire et pompé, il va pouvoir, vis-à-vis des signaux, se comporter de façon non linéaire autour du point de fonctionnement. Mais maintenant, les différentes fréquences vont communiquer entre elles. C'est-à-dire qu'on a une diffusion par le circuit qui nous permet de changer de port. On a une diffusion entre ports, mais on a aussi une diffusion entre fréquences. Et le caractère amplificateur est dû au fait que, en fait, on a une diffusion même entre fréquences en traversant la fréquence nulle. C'est le fait qu'on puisse faire communiquer les fréquences positives et les fréquences négatives, on le verra, qui donne l'amplification. D'une manière générale, on a cette équation qui relie les différentes composantes en fréquence à la fréquence de la pompe. Alors, ça va être vraiment mon dernier transparent. Je m'excuse pour avoir dépassé vraiment avoir pris un peu trop de temps. Mais ce transparent est absolument essentiel. Donc, lorsqu'on va avoir maintenant non pas un port, un circuit actif avec un port, mais deux ports, on a une matrice de diffusion un peu compliquée ici, mais on voit apparaître à ce niveau-là une propriété extrêmement importante. Donc, cette matrice va être symplectique. Donc, l'unitarité de la matrice de diffusion est remplacée par la symplecticité. Alors, qu'est-ce que c'est que la symplecticité? Pour l'unitarité, on a S dagger S vaut 1. Ici, la symplecticité, c'est le fait que si on prend en sandwich entre S et S dagger cette matrice J, qui est la matrice qui engendre finalement ces formes bilinéaires antisymétriques, comme les crochets de poissons, eh bien, cette matrice ici est conservée par la diffusion. Et c'est cette symétrie des systèmes actifs qui va nous permettre, dans la dernière leçon de ce cours, de comprendre comment réaliser un amplificateur qui, en quelque sorte, respecte au mieux les fluctuations quantiques sans introduire de fluctuations parasites. Voilà, encore une fois, je suis désolé d'avoir pris un peu trop de temps et je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.